la rubrique culturelle L'air de rien, présentée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Je suis avec Denis Lannoy. Bonjour Denis.
Et bonjour, bonjour.
Et regardez son programme et vous savez tout par cœur, Denis. Le programme de la 21e saison de la Maison Théâtre des Littératures à voix haute, c'est la saison 21 et vous allez fêter les 10 ans.
Les 10 ans de la Maison Théâtre, ben merci.
Alors je lis le petit en-tête qui est dans le livret. Il y a 10 ans, quand nous avions la volonté de nous inscrire dans la durée, nous sommes encore en chemin, tant durer et tenir est une gageure, en temps de retournement en tout genre. Donc bravo et félicitations, parce que c'est un engagement... à plein temps, hein, de cette maison des littératures à voix haute. Je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, c'est au 26 rue de la République à Nîmes. Vous pouvez réserver par téléphone au 06 17 53 02 60. Vous pouvez aller sur le Facebook com.com maison des littératures. Et pour réserver, c'est réservation.fantaisie.littéraire@gmail.com. Voilà, on a fait un peu de publicité, mais vous êtes bien connus maintenant. Et la salle n'est pas si grande, donc c'est toujours complet.
Quasiment, oui.
Quasiment. Quasiment. Donc, étudiez bien cette plaquette qui vient de sortir avec un très beau visuel. Et cette saison est dédiée à Hannah Arendt. Donc, sur la page de garde, il y a marqué « Être libre pour la liberté signifie avant tout être délivré non seulement de la peur, mais aussi du besoin. » Et il y a donc le beau dessin de Stella pour Hannah Arendt. Mais je lis que Jacques Prévert sera à l'honneur cette saison. J'ai l'impression que c'est très poésie cette saison.
Alors c'est effectivement une saison où de nombreux et nombreux poètes sont invités. C'est toujours un peu les hasards de la programmation, mais enfin le hasard sur les disponibilités des uns et des autres.
Bien sûr.
Mais c'est quand même l'objectif, c'était pour ces 10 ans de faire entendre des paroles fortes, qui a toujours été notre volonté, et puis surtout de témoigner de cette radicalité importante pour nous, c'est cette ouverture au monde. Et là, c'est je pense une saison qui s'ouvre véritablement au monde.
Alors, on va parler de la saison en général, donc du mois de janvier, puisque le premier rendez-vous, c'est le 30, une lecture Jacques Prévert. Nous irons jusqu'au 22 mai, avec deux temps forts qui feront l'objet de deux émissions spécifiques, hein, en mars pour Poésie, au pluriel, en l'état, 13, 14, 15 mars, hein, donc nous en reparlerons plus en détail. Et puis un autre temps fort, c'est les 10 ans, 10, 11, 12 avril, et là aussi, beaucoup de choix. Mais on va commencer peut-être par les invités. Et je vois qu'en première page, vous avez mis la liste de tous les invités en 10 ans. 153 invités.
Oui.
C'est pas mal.
Bah, c'est pas mal, oui.
Ça fait une moyenne de 7-8 invités par saison, moi.
Oui, c'est ça, oui.
Alors, il y en a qui sont venus plusieurs fois, il y en a qui sont venus qu'une fois. Mais je vous invite à lire un peu cette liste. Et puis, pointé, qui vous connaissez, qui ne connaissait pas, puisque ouverture au monde, c'est aussi ouverture aux auteurs.
C'est ça, il y a des gens très connus et d'autres du grand public, j'entends. Hein.
Bien sûr.
Mais parfois, on ne sait pas que ce sont des gens qui sont poètes et qui écrivent aussi. Je pense à Claude Sérillon, par exemple.
Oui, qui est venu.
Qui est venu à la Maison des Littératures, donc qui est forcément très connu, très médiatisé. Et pourtant, je suis sûr que peu
personne ne sait qu'il est poète.
Voilà, il est poète.
Et puis, il y a un petit encart au bout, une petite ligne. Il ne faut pas oublier d'associer la quinzaine de comédiennes et comédiens qui sont venus les lire au fil de ces années.
Absolument.
Puisque la Maison Théâtre des Littératures à voix haute, ce sont donc des lectures. Alors, je reviens sur Hannah Arendt. J'en ai parlé très, très rapidement. Je pense que tout le monde connaît Hannah Arendt.
Je l'espère. Sincèrement, je l'espère.
On en parle beaucoup tout de même de Hannah Arendt.
Oui.
Bon, il n'y a pas que sa phrase phare, hein, mais il y a aussi toute son œuvre. Alors, vous commencez par une soirée lecture Jacques Prévert, le jeudi 30 janvier à 19h. Lui aussi, c'est un poète populaire. Je crois que j'aime bien cette juxtaposition,
oui,
poète
c'est,
populaire.
C'est un poète populaire qui, je pense aussi, a revendiqué ce côté populaire. Et c'est un poète aussi touche-à-tout, je crois que c'est ça aussi qui marque son œuvre. Et un poète au lyrisme, oui, simple et populaire, c'est-à-dire quelqu'un qui sait écrire pour toutes les oreilles, c'est-à-dire des oreilles qui sont habituées au choc des mots et à une pensée complexe. Et puis, par son beau contact avec la langue populaire, entre autres l'argot, ouais. Il sait être en phase aussi et toucher celles et ceux qui sont, pour diverses raisons, éloignés de la littérature. Mais ça, en soi, ce n'est pas du tout un problème. Parce que, une fois encore, et j'insiste, la poésie est vraiment le vecteur par essence populaire de tous les arts.
Alors nous écouterons une des chansons, un des textes de Jacques Prévert. Je vous laisserai deviner laquelle quand on l'écoutera. Mais je voudrais aussi, puisque nous enregistrons cette émission le 20 janvier, qui est une date un peu compliquée aujourd'hui, je ne vais pas dire pourquoi, et je voudrais citer la phrase que vous avez citée. En disant Prévert parle souvent de manière frontale des tourments de son temps, comme en 1938, quand il disait dans Paroles et Musique, le réfractaire, je pense qu'Hitler, c'est un salaud, une ordure, un fumier et un pauvre con.
Eh bien, j'espère qu'il y a un poète qui un jour aura le courage d'écrire la même chose sur Donald Trump.
Je ne l'avais pas cité, mais je savais, vous le diriez, mais tout le monde avait compris.
Et Elon Musk, parce que je pense que le danger véritable, c'est lui.
Eh oui, si maintenant les milliardaires se targuent de politique, où va-t-on? Alors, nous fermons la parenthèse. Merci Jacques Prévert. Et nous passons au mois de février avec deux rencontres, le 6 et le 13. Donc le 6, c'est une fantaisie littéraire avec Louis-Philippe d'Alembert. Je ne connais pas, j'ose le dire à chaque fois.
Alors je vais vous en parler brièvement parce que je pense que ça va être... c'est le premier rendez-vous de la saison et de l'année 2025 avec un poète à la Maison des Littératures, même si le premier rendez-vous avec Jacques Prévert est important. Mais
c'est une lecture.
C'est une lecture, c'est une forme de rendez-vous, mais là, c'est un rendez-vous, un véritable rendez-vous avec Louis-Philippe d'Alembert, poète haïtien. Et ça, ça faisait longtemps que je rêvais d'avoir un poète haïtien à la Maison des Littératures, parce que Haïti est sans doute la région du monde où il y a le plus de poètes francophones. Et des poètes de tout premier ordre, jeunes, plus âgés comme Louis-Philippe d'Alembert. Et cette vivacité de la poésie haïtienne est une chance inouïe pour la littérature française, d'expression française. Et donc pour moi, c'était vraiment important. Et là, je suis vraiment très heureux de pouvoir accueillir un poète haïtien, parce que c'est éminemment compliqué de pouvoir faire venir un poète haïtien. Bon, il se trouve que régulièrement, d'Alembert est à Paris. L'autre chance que nous avons, c'est qu'il est un peu dans les médias aujourd'hui. Il a eu de nombreux prix régulièrement, mais là en 2024 il a eu le prix Goncourt de la poésie, donc c'est aussi l'occasion de pouvoir parler de poésie contemporaine avec quelqu'un qui forcément regarde la poésie française avec un autre œil et en même temps un amour formidable pour cette poésie.
Oui, et puis vous mettez son écriture est un bel exemple de marche contre les ténèbres.
Absolument.
Et je sais que les ténèbres, elles sont très sombres en ce moment.
Oui, il a, par rapport à ça, par rapport à l'esprit marche dans les ténèbres, c'est qu'il dit aussi que cette marche dans les ténèbres que nous connaissons aujourd'hui, c'est parce que le passé ne parvient plus à éclairer le présent, et ni le futur. Et que donc, c'est pour ça qu'on marche peut-être à nouveau dans des ténèbres.
Alors ensuite, le jeudi 13 février à 19h, autre fantaisie littéraire avec Claire Baglin.
Oui, alors ça, c'est très bien de parler de Claire Baglin, parce que c'est une jeune autrice. C'est son premier... Elle a écrit un seul roman pour l'instant, formidable, qui connaît un succès assez important, puisqu'il est même publié en poche. Pour un premier roman, c'est quand même... ça s'appelle En salle. L'autre particularité de Claire Baglin, qui est toute jeune, c'est qu'elle est aussi fraîchement diplômée d'une école des beaux-arts. où c'est à l'école qu'elle s'est mise à écrire, parce que vous savez que maintenant, dans les écoles des Beaux-Arts, il y a une place réelle faite à la poésie et à l'écrit. Et que donc les élèves suivent un cursus aussi d'écriture créative. Alors certains, ça déclenche des choses. Claire Baglin est un bon exemple. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ça nous a permis de développer un partenariat avec l'ESBAN, avec l'école des Beaux-Arts de Nîmes.
Parce que l'ESBAN, justement, on avait fait une émission avec la nouvelle directrice disant il faut une pluridisciplinarité. Mmh.
Et donc, on a un partenariat avec l'École des Beaux-Arts de Nîmes. Partenariat qui va se décliner durant la saison sur plusieurs choses. Claire Baglin, nous la co-accueillons avec l'École des Beaux-Arts. C'est-à-dire qu'elle est accueillie à la Maison des Littératures le soir. Et le lendemain, elle fait un travail d'atelier avec des élèves de l'École des Beaux-Arts. Et puis, au cours de la saison, on aura l'occasion d'en reparler de manière beaucoup plus approfondie. Il y aura une soirée dédiée à l'École des Beaux-Arts, à l'atelier d'écriture. Mmh. Et là, je ne peux rien dire sur le contenu, parce que c'est une soirée...
Improvisation.
Ça ne sera pas de l'improvisation. Mais c'est une soirée, la programmation, ce sont les élèves et les professeurs de l'École des Beaux-Arts qui s'en chargent.
Oui, c'est ça que je disais, elle n'est pas encore faite. Voilà.
Elle a le temps d'arriver, puisque cette soirée-là, c'est le 11 avril, pendant un de nos temps forts dont on parlera plus
profondément. Oui, puisqu'aujourd'hui, je rappelle, nous parlons de la saison en général. Alors, on a un peu anticipé sur la poésie en l'état. Mais avant Poésie en l'état, les 13, 14, 15 mars, il y a le 6 mars, Pierre Soletti.
Oui, alors ça aussi.
Mais tout est bien.
Non, Pierre Soletti, c'est très bien, vraiment, parce que c'est un jeune écrivain et c'est un jeune performeur. Un jeune. Et je pense que là aussi, ça va intéresser les élèves de l'École des Beaux-Arts, parce que c'est vraiment un des aujourd'hui performeurs poétiques les plus importants. Et c'est vraiment, enfin pour moi, personnellement, je pense que c'est un vrai événement de pouvoir le faire venir à Nîmes, parce qu'il a joué vraiment dans des scènes très, très importantes et très prestigieuses, beaucoup plus que la Maison des Littératures.
Nos auditeurs ne... pas très bien ce que c'est qu'un poète performeur. Comment vous définissez un poète performeur? On connaît maintenant dans beaucoup de formes de art, il y a des performances.
Oui.
En poésie, c'est quoi exactement?
Eh bien, c'est un poète performeur, c'est un poète qui, avec son corps, expose sa poésie à la vue de tout le monde, puisqu'il va dire la poésie à voix haute et parfois lui donner une forme un peu spectaculaire. C'est ça un poète performeur. C'est un poète qui donne chair à sa propre poésie.
Mais là aussi, c'est pluridisciplinaire, en fait. Ce n'est pas que c'est pas que la voix, c'est...
Ah oui, par exemple, on accueille Estelle Dumortier en fin de saison. C'est aussi une poétesse performeuse qui associe danse et poésie. Danse et poésie. Donc,
c'est très bien ce lien entre plusieurs formes d'art. Donc, il faut noter tous ces rendez-vous parce qu'ils sont vraiment tous très intéressants. Alors, je rappelle, les 13, 14, 15 mars, c'est Poésie en l'état. On se retrouvera pour une émission plus spécifique. Je vois que Poésie en l'état, c'est déjà l'édition 3.
Oui, tout à fait.
Mais c'est la première fois, je crois, qu'on fera une émission spécialement dédiée à Poésie en l'état.
Je ne suis pas certain qu'on n'en ait pas fait une quand même pour la première édition.
J'ai oublié, excusez-moi. Donc, je vois qu'il y a une déambulation poétique, je tourne un petit peu.
Avec les élèves de l'École des Beaux-Arts, justement.
Il y a une lecture-concert de Rémi, votre ami, notre ami Rémi Cecchetto, dresseur de nuages, j'aime beaucoup. À Paloma.
Oui.
À Paloma, il y a plus de place.
Ça sera une création, alors ce ne sera pas dans la grande salle, ça sera
dans le
petit cabaret.
On peut bien mettre
studio.
150 personnes.
Absolument, mais on avait déjà fait une performance autour de Jack Kerouac là-bas et c'était plein et on réédite. Alors là, c'est une création. Une création, on peut dire, mondiale. Rémi sera là pour être spectateur, puisque c'est moi qui crée ça avec un jeune musicien qui s'appelle Adam Dupas. C'est une création à part entière.
Mais quand j'ai lu votre en-tête en disant « Nous sommes toujours en chemin », je vois que ça, c'est un chemin qui s'élargit, qui devient une autoroute presque.
Non, ça reste un chemin de montagne.
Je savais que vous alliez répondre ça. Je vous ai un peu provoqué. Et puis, donc, je rappelle, et on conclut sur ces trois jours, 13, 14, 15 mars. Donc, notez bien, procurez-vous le petit livret. Et on fait une petite pause avec une chanson de Jacques Prévert. Je ne sais pas laquelle vous auriez choisi, je ne sais pas laquelle chaque auditeur voudrait choisir, mais c'est moi qui l'ai choisi.
En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées, puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un bateau à voile, partant pour le Japon, et les trois mousquetaires des cinq doigts de la main, tournant la manivelle d'un petit sous-marin, plongeant au fond des mers pour chercher des oursins. Revenant sur la terre, nous avons rencontré sur la voie de chemin de fer une maison qui fuyait, fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper. Mais nous, sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler, rouler derrière l'hiver, et on l'a écrasé, la maison s'est arrêtée, et le printemps nous a salué. C'était lui le garde-barrière et il nous a bien remercié. Et toutes les fleurs de toute la terre soudain se sont mises à pousser, pousser à tort et à travers sur la voie du chemin de fer qui ne voulait plus avancer de peur de les abîmer. Alors on est revenu à pied. À pied tout autour de la terre, à pied tout autour de la mer, tout autour du soleil, de la lune et des étoiles. À pied, à cheval, en voiture et en bateau à voile.
Alors sur Radio Alliance Plus, nous retrouvons Denis Lannoy pour cette saison 21, donc où Jacques Prévert est à l'honneur, mais une saison qui est dédiée à Hannah Arendt. Nous avons brièvement évoqué Poésie en l'état les 13, 14, 15 mars, mais au mois de mars, il y a encore deux dates, hein, vous n'arrêtez pas, c'est très dense. Jeudi 20 mars, 19h, Alaa Mohammad, citoyenne franco-syrienne.
Oui, alors ça sera dans la continuité de Poésie en l'état, puisque on a souhaité faire un focus sur la poésie des femmes du bassin méditerranéen. Et donc, on accueille on reviendra là-dessus quand on parlera de Poésie en l'état. On accueille une poétesse algérienne pendant Poésie en l'état et une poétesse libanaise. Mmh. Et durant deux jours, 14 et 15 mars. Et le 20, on accueille cette poétesse franco-syrienne qui vit à Paris. Elle est réfugiée depuis 2014 à Paris.
Mmh. Et elle s'est exilée en 2012, elle est arrivée à Paris en 2014. Et je cite, vous citez peut-être mieux que moi, les deux poétesses dont vous aviez parlé, c'est Sofia Karampali Ferhat, c'est ça ?
C'est ça.
Et Habiba Dianine.
C'est ça.
Donc on est vraiment dans avec les femmes méditerranéennes.
Tout à fait, tout à fait.
Qui ont bien besoin de soutien.
Qui ont besoin de soutien. Alors ça, c'est mais aussi ont besoin qu'on montre leur talent d'écrivaine, de poétesse. Il faut remarquer que Habiba Dianine et puis Alaa Mohammad sont aussi réalisatrices de documentaires parce que ce sont des femmes qui ont des choses à dire vraiment profondes et pas simplement à la surface et des choses à dire sur l'actualité parce que par exemple Karam Pali Ferhat, elle est très jeune, elle n'a pas 30 ans, elle est diplômée de l'école normale de l'ENS de Paris et de Sciences Po, et elle est spécialiste de la géopolitique du Moyen-Orient.
On voit que les femmes ne sont pas des êtres inférieurs, comme absolument beaucoup d'hommes
pas,
le pensent.
Absolument pas.
Oui, je vois que Alaa Mohammed a fait un film, parce qu'elle risque, j'allais presque dire, leur vie. Hein, elles sont...
Absolument.
Et en 2005-2006, son voyage dans la mémoire racontait l'histoire des trois intellectuelles syriennes qui ont subi l'emprisonnement dans la prison de Palmyre, malheureusement si réputée.
Et puis l'actualité aujourd'hui nous réveille par rapport à ça. Et donc, voilà,
on en
parlera avec elle, ça sera l'occasion d'en parler en direct avec elle, de qu'est-ce que ça représente pour elle, les événements récents en Syrie.
Alors, la poésie, la littérature, au service aussi des individus, de la citoyenneté, de la liberté. Et la soirée lecture, un jeudi 27 mars, c'est vous qui lisez, peut-être plusieurs personnes qui vont lire Anna Arendt.
Oui, on sera. Il y aura Bruno Paterno et moi qui allons lire des textes de Anna Arendt. C'est un phare, phare de la pensée du XXe siècle, Anna Arendt. Alors, il n'y a pas de hasard possible sur le fait que ça soit la dédicataire de la dixième année d'existence de la Maison des Littératures, parce que le premier dédicataire, c'est Walter Benjamin. Mm. C'est l'autre, pour moi, personnellement, c'est même pas le phare du XXe siècle dans le domaine de la pensée, c'est aussi le phare du XXIe siècle. Mm. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a anticipé ce à quoi nous serions confrontés au XXIe siècle et qui nous a... Et c'est seulement maintenant, réellement, depuis une dizaine d'années, qu'il y a un intérêt par rapport à la pensée de Walter Benjamin.
C'est vrai que moi, je l'ai découvert avec vous, je ne connaissais pas trop. Et c'est vrai que depuis une dizaine d'années,
On en parle beaucoup parce que ce qu'il a conceptualisé dans les années 20-30... c'est ce à quoi nous sommes confrontés actuellement. Alors c'est une pensée éminemment complexe, mais qui a ce mérite de la clairvoyance. Et Anna Arendt fait partie de ces gens qui nous donnent à voir ce qu'on doit encore espérer. Et elle a eu cette formule. Qui résume, je pense, ce à quoi nous sommes confrontés quand elle dit « l'essentiel pour moi est de comprendre, je dois comprendre si nous faisions toutes et tous ce travail de dire « je dois comprendre ce qui se passe », sans aucun doute, on serait pas dans cette misère et cette mouise dans laquelle nous sommes. Et quand je parle de misère, je parle pas de misère matérielle, je parle de misère d'espoir.
Oui, et puis vous parliez en introduction d'Elon Musk, quand on voit la désinformation, c'est
ça fait partie de ça. Je dois comprendre si on a.
Je dois comprendre, mais il faut travailler,
il faut chercher, il faut avoir le temps pour ça. Et,
bien sûr.
Et donc.
Puis avoir les bons outils. Hein. Et je pense que la Maison Théâtre des Littératures à voix haute est un des outils justement pour comprendre à travers ses poètes, à travers ses auteurs. Et merci encore. Et puis, bon anniversaire, 3 jours d'anniversaire, hein, c'est magnifique. On voit tout le travail fourni hein, pour organiser ces 3 jours d'anniversaire. Donc, en partenariat avec l'ESBAN, 10, 11, 12 avril, il y aura Florentine Rey et des lectures d'Antonin Bigot. Il y aura une émission spéciale 10e anniversaire, mais donnez-nous un petit peu
Oui, alors déjà, il y a l'École des Beaux-Arts qui est partenaire, mais il y a aussi la bibliothèque Carré d'Art, puisque la performance, on accueille encore une performance.
C'est pour ça que je vous ai demandé une explication.
Florentine Rey, c'est vraiment un moment... Alors là, c'est vraiment... on peut venir écouter Florentine avec les enfants. Ça c'est important. À partir de 10 ans, c'est vraiment
inédit et réjouissant.
Voilà, c'est tout à fait important parce que Florentine pratique la poésie depuis de nombreuses années et la ventriloquie. Et ce à quoi elle parvient, c'est à faire vivre alors Joachim du Bélé et elle-même, c'est un dialogue entre elle et Joachim du Bélé. auquel on assiste comme si Joachim Dubélé était à l'intérieur du corps de Florentine Rey.
Ah,
et donc, c'est un moment absolument réjouissant.
Oui, parce que nous sommes dans une époque de ténèbres, mais il faut garder espoir et puis des petites bulles d'oxygène, de gaieté. On n'en dit pas plus sur ce 10e anniversaire. Nous aurons une émission spéciale donc début avril. On peut déjà tout de même réserver. Non, au Carré d'Art, il n'y a pas besoin de réserver à l'ESBAN ou au Carré d'Art. C'est entrée libre, je suppose.
Oui, c'est tout est entrée libre.
Voilà. Donc, on va passer au mois de mai avec deux dates. Alors là aussi, un poète, le 15 mai, lecture Antoine de Saint-Exupéry. Donc, il devait figurer dans votre saison de poésie.
Oui,
semblait une évidence là aussi.
Oui, c'est encore une fois, enfin, c'est Antoine de Saint-Exupéry, je pense là aujourd'hui, pour diverses raisons, c'est vraiment un poète populaire. Un écrivain populaire très, très reconnu et connu. Je ne suis pas certain que tout le monde ait lu, mais enfin, Le Petit Prince.
Le Petit Prince, oui. Tous les enfants ont écouté.
C'est une œuvre mondialement connue. Je reviens de Toulouse, là où j'étais invité par la CAFPO pour y donner une performance, justement. et il y a une librairie dans la rue du Thor, là, juste à côté de la CAFPO. Une librairie qui expose. Toutes les traductions. C'est assez extraordinaire.
Mmh.
Toutes les traductions.
Il y a combien de langues?
Vous
n'avez pas compté.
C'est impossible d'arriver à compter. C'est absolument magique de voir comme ça ce texte, Le Petit Prince, avec toujours le même petit dessin de Saint-Exupéry, et de voir.
C'est mondialement connu.
C'est mondialement connu. Mmh. C'est mondialement traduit. Dans des langues, évidemment, il y a l'anglais, l'allemand, l'espagnol, etc. Et puis des langues qui...
Asiatiques,
Oui. Et puis vraiment, vraiment traduites. C'est-à-dire des langues où, sans aucun doute, c'est un seul peuple de quelques milliers de personnes qui parlent encore cette langue.
Oui, oui.
À partir du moment où elle a une écriture, parce qu'il y a aussi cette magie dans les langues aujourd'hui qui survivent dans notre humanité, qui n'ont pas d'écriture, ça existe encore. Et ça, je trouve ça aussi merveilleux.
La tradition orale, oui.
Que ça puisse perdurer encore. Mmh. Et que j'espère que ça ne s'effacera pas.
Alors, on doit finir rapidement, parce qu'on devait à peine parler de Poésie en l'état de 10e anniversaire, mais on ne vous arrête pas et c'est très bien. Donc, on conclut la saison jeudi 22 mai à 19h avec Estelle Dumortier, donc là aussi performeuse et dramaturge, danseuse.
Absolument.
Elle a une compagnie, La Traversante.
Et elle danse aussi.
Écoutez, nous avons parlé de littérature à voix haute, de théâtre, de poésie, de danse, de cinéma, des arts.
La vie.
Vital.
La vie.
Merci Denis.
Merci.